Donc, l'Apocalypse, chapitre 14, et nous allons lire, enfin, nous allons reprendre là où nous avions laissé, ça fait presque déjà un mois, maintenant, ça fait même un mois, nous allons reprendre au chapitre 14, donc verset 6, et nous lirons jusqu'au verset 13. Elle n'allume plus. Bon. Pardon. Lecture du texte, donc. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Un autre, un second ange, suivit en disant, « elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. » Et un autre, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Quel beau texte magnifique, encore une fois, d'encouragement, qui s'inscrit fort bien dans la suite de ce qu'on a vu dans les versets 1 à 5, rappelons-nous. La popularité des films de science-fiction n'est plus à faire. Je pense que personne va en disconvenir, hein? On y voit à peu près toujours le même scénario, mais qui nous est présenté dans diverses expressions. Et on est toujours dans la même attitude, n'est-ce pas? On attend et on veut avoir l'assurance qu'à la fin, la bonne cause va triompher. Hein? C'est « built in » en nous, ça. C'est en nous, c'est dans nos gènes de voir le triomphe de ce qui est beau, de ce qui est bon, de ce qui est bien et grand. Et le livre de l'Apocalypse représente une explication du succès de ces films-là par la vérité substantielle qu'il dépeint. La race humaine, je ne vous apprendrai rien, elle est contrôlée largement par des puissances, hein, des puissances invisibles mauvaises, et des puissances qui font appel à des plaisirs sensuels qui nous gardent esclaves. On ne réalise pas toujours, enfin, le monde ne réalise pas que les plaisirs sensuels nous gardent esclaves. On a beau le dire et le crier, les gens se laissent esclavager, je ne sais pas si c'est un verbe, hein, par les plaisirs sensuels sans s'en rendre compte. Pourtant, on enseigne aux enfants d'école du dimanche, hein, lorsqu'on les fait avancer, on me dit « mets tes mains comme cela », on prend une corde, on fait un tour autour de leur poignet et on dit « dégage-toi ». Bon, c'est relativement simple si on fait seulement un tour. Mais si on prend la même corde et qu'on fait 3-4 tours, il n'y a plus moyen de se dégager, c'est ça le péché, vous voyez? On arrive, on est jeune, et progressivement, le péché en nous se développe, hein? Et il se développe de plus en plus. Et on y goûte. Et on veut toujours y goûter un peu plus. Et c'est comme ça qu'on se laisse rendre esclave de ce péché-là. Même ceux qui endossent l'idolâtrie de l'autonomie personnelle et des plaisirs hédonistes réalisent qu'il y a là quelque chose de toxique et de malsain. La satisfaction leur échappe. Le mal, hors de Jésus, rien ne peut livrer la marchandise. Rien ne va livrer le produit. Et sous ce vernis d'humanisme séculier dans lequel nous vivons, la puissance des ténèbres est à l'œuvre. Et c'est ce que l'Apocalypse nous décrit par le moyen de visions. Nous avons Satan, le dragon, avec les bêtes, celles qui montent de la terre, celles qui montent de la mer, ses servantes, contrôle le monde incrédule et fait la guerre, il faut bien prendre l'expression, à la communauté chrétienne qui est contre-culture et qui possède la vérité. Autant dans les films de science-fiction que dans l'Apocalypse, la connaissance de la vérité crée une grande attente de la défaite des puissances du mal. Tout au long de l'Ancien Testament, on attendait la venue du Messie. Tout au long de l'Ancien Testament, dans quelques guerres que ce puisse être, on attendait la délivrance du Seigneur. Tout au long du Nouveau Testament, on attend le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la situation dépeinte ici dans ces versets 6 à 13. La scène ici est différente de ce que nous avons vu au verset 1 à 5. On retrouve ici une équipe de trois anges, qui volent au milieu du ciel et qui annoncent le jugement à venir. Ces anges-là ne sont pas en train de faire arriver des choses. Ce ne sont pas des anges en action, Ce sont des anges annonciateurs. Ils sont un peu là comme des anges qui liraient les journaux célestes du jour pour parler des événements clés qui sont sur le point d'arriver. Vous voyez? Ils les décrivent d'une manière très claire et très nette. Ils publient, en quelque sorte, les décrets du jugement de Dieu, parce que la trame historique, là où nous en sommes, tire à sa fin. Mon premier point, donc, les points ne sont pas très compliqués. Le message du premier ange, le message du deuxième ange, et quel est mon troisième point? Le message du troisième ange, voilà. C'est ce qu'on appelle l'herméneutique dans ces simples éléments. Donc, le message du premier ange, versets 6 et 7. Le premier ange, nous est-il rapporté au verset 6, volait au-dessus du ciel, au milieu du ciel, il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Moi, vous savez, quand je préparais ce message-là cette semaine, à quoi ça m'a fait penser? On voit plus cela maintenant, mais on le voyait très souvent auparavant. On prenait ces petits avions pour faire de la pub, et on attachait un message à la queue de l'avion, et là, l'avion, le petit avion se promenait, et tout le monde, depuis le sol, pouvait lire le message. Et on le faisait voler au-dessus des plages, au-dessus des grands événements sportifs, où il y avait beaucoup de gens, et ils ne pouvaient pas manquer leur coup. Écoutez, il y a un message qui vole dans le ciel, on était tous extrêmement intéressés de savoir ce qu'il disait. Alors, c'est un peu ça qu'on voit ici, si vous voulez. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Quel est le message de cet évangile éternel dont l'ange est porteur ici? Il annonce à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, disant « Craignez Dieu ». Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Pas une peur maladive, une révérence. Une crainte révérentielle, un désir de plaire à Dieu, un désir d'avoir son sourire sur nos vies. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. C'est l'aspect avertissement de l'Évangile. L'heure de son jugement est venue. Et ce message, c'est une bonne nouvelle pour l'Église. Car il parle de la défaite des puissances impies et, en conséquence, de sa délivrance des tyrans qui l'affligent. L'Évangile est ici présenté sous la forme d'un appel à la repentance. Craignez, adorez-le, l'heure du jugement est arrivée. On devrait se rappeler la manière dont Jésus a introduit son ministère dans les évangiles, dans l'évangile de Marc, chapitre 1, versets 14 à 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » C'est tellement belle cette expression-là, « Le temps de Dieu est accompli. » La parole de Dieu nous présente l'histoire, vous savez, comme un gros contenant. Et au fur et à mesure, il se remplit avec un contenu. Et quand il arrive à un certain niveau, ah ben voilà, tel événement arrive. Un autre niveau, c'est un autre événement. Parce que c'est le verbe pluréo qui est ici. Le temps est rempli, c'est ce que le texte nous dit littéralement. Le temps est rempli, voici ce qui va arriver maintenant. Le temps est accompli, le temps est rempli, et le royaume de Dieu est proche, disait Jésus. Et là maintenant, dans le texte qui nous occupe, il est arrivé. Le Seigneur donc parle de la venue du royaume de Dieu et le premier ange déclare que l'heure de son jugement est venue au verset 7. C'est le même message prêché à toute la terre. Dans l'Apocalypse, l'expression fait référence aux incrédules qui ignorent Jésus et qui vivent confortablement dans leur péché. Le message de l'Évangile, c'est-à-dire le message de la bonne nouvelle, hein, ça signifie quelque chose, l'Évangile, ça signifie que quelque chose a changé, quelque chose s'est produit. Il y avait une situation catastrophique qui s'est changée en une situation enviable pour ceux qui reçoivent cette bonne nouvelle-là. Et la signification de ce message amène aussi à la lumière le jugement à venir sur ceux et celles qui choisissent de l'ignorer. Verset 7. L'ange disait d'une voix forte, il n'était pas en train de susurrer, hein? L'ange disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Il n'y a pas d'indifférence possible face à ce message-là. Il est simplement question de confesser sa culpabilité et de s'humilier devant Dieu. Quelle autre réponse, quel autre comportement, quelle autre posture pourrait-on adopter pour être en réception de l'Évangile? Et c'est le message que l'Église a pour le monde. Il y a un Dieu, donne-lui gloire, donne-lui la gloire qui lui revient. Fais appel à sa miséricorde pour le pardon de tes péchés et honore-le par ta vie. Imaginez un peu un artiste sur une plage dans le bout de Charlevoix, il y a de très beaux massifs, qui est en train de peindre un magnifique paysage. Il est tellement absorbé par la beauté de ce qu'il voit sur cette terre, tellement absorbé par ce qu'il fait, qu'il ne se rend pas compte que la marée monte et qu'elle va le noyer. Oui. Ceux qui sont aveuglés par le royaume du monde sont exactement ceux-là. Tentent vraiment d'assimiler tout ce que le monde peut avoir, d'en profiter au maximum. Vous avez certainement jamais entendu « Je n'ai qu'une vie à vivre, il faut que je la vive au maximum. Hein. » Il n'y a personne qui a jamais dit ça, bien sûr. Quelle phrase vide quand même. Si j'ai vraiment qu'une seule vie à vivre, il faut que je la vive pour le Christ. Jésus devait dire, parlant des gens de Noé, dans Luc, verset 17, verset 26-27, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. » Il n'est pas dit que ces gens-là étaient tous réunis en train de commettre tous les péchés imaginables. Ils menaient simplement une vie dans l'ignorance de Dieu, donc ils s'étaient eux-mêmes déifiés, menaient une vie pour eux-mêmes, une vie sans aucun souci pour notre Dieu. Le peintre en train de peindre son récif devant la marée qui s'en vient. L'ange de ce verset 6 exhorte donc d'une voix forte à la repentance. Il exhorte à donner gloire à notre Dieu et cet ange-là appelle l'Église, à la proclamation de cet évangile éternel, à rendre gloire à Dieu. Cet ange-là parle du témoignage de ma vie. On peut parler toujours de manière universelle, mais il faut être impliqué quelque part, vous savez. C'est facile de dire, ben, il faudrait qu'on, ou que les gens, mais moi, là-dedans. Je pense que ce témoignage-là, dont il est rendu compte ici, nous interpelle tous et chacun d'entre nous. Parce qu'à titre de chrétien, nous sommes tous des témoins. Ce n'est pas à dire que nous courons à qui mieux comme des chevaux débridés pour imposer le message aux gens. Ce n'est pas à dire qu'on se rue de porte en porte, certains pourraient le faire. Ce n'est pas à dire qu'on ne vit pas une vie équilibrée, une vie normale pour imposer le message aux gens. Certains ont des dons et des appels plus grands que d'autres à cet effet-là. Mais il y a une réalité qui demeure cependant, c'est que nous sommes tous, chacun et chacune d'entre nous, appelés à interpeller les gens avec le message de l'Évangile éternel. Bon, je ne partirai pas un débat à n'en plus finir avec la Grande Commission, qui nous dit « Allez et faites des disciples, hein, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ceux qui ont fait du grec savent que c'est un participe présent. C'est en allant, faites des disciples et baptisez-les au nom, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon, les exégètes vont discuter, on va se quereller un peu en disant, oui, mais ça a vraiment le sens d'un impératif. Oui, il y a un sens d'impératif. Mais moi, j'aime bien prendre le participe présent pour ce qu'il est. En allant, vous voyez? Comme si là, quand on dit aller, on fait de l'évangélisation une activité particulière. De 2h à 4h moins quart, je vais évangéliser. Comprenez-vous? Bon, c'est bien qu'il en soit ainsi. Mais quand on dit en allant, parce que nous sommes tous en train d'aller quelque part, en allant au travail, en allant au gymnase, en allant magasiner, partout dans mes démarches, je croise des gens et ils se présentent souvent de fois des occasions où je peux partager l'Évangile. Peut-être que je suis dans le champ, mais pour moi, l'évangélisation, c'est cela. C'est pas quelque chose, on part en armée et on s'en va évangéliser. Si on le fait, amen. C'est pas anti-biblique, bien au contraire. C'est très bien qu'il en soit ainsi. Mais l'évangélisation, c'est davantage un mode de vie. C'est pas une obsession non plus, on n'est pas en psychose, mais c'est extrêmement important de se laisser rappeler que nous sommes tous et toutes des témoins. Mais quand on parle de rendre témoignage, on ne fait pas que référence au verbal. « Ah, j'ai témoigné à quelqu'un aujourd'hui. Hein? » On leur dit « J'ai parlé à quelqu'un. » C'est bien, bien sûr. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? En fait, le verset est tellement subtil. Vous savez ce qu'il dit ce verset-là dans Romains 10? « Comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? » C'est littéralement ce que le texte grec nous dit. Ça veut dire que lorsque nous proclamons l'Évangile à des gens, c'est comme si Christ parle à travers nous. Mais le témoignage ne fait pas que référence au verbal. C'est se débarrasser de réalités beaucoup trop importantes. Hein, le témoignage fait partie de l'ensemble de notre sanctification. On considère le témoignage de ma vie, ma manière de vivre, mon existence comme un témoignage très important. Comment est-ce que je vis? Comment est-ce que je dépense mes énergies? Comment est-ce que je dépense mes sous? Quelle est la qualité de mes relations avec mes proches et avec ceux du dehors? Qu'en est-il de ma douceur? Comment s'affichent mes réactions? Et on pourrait continuer à l'infini. Et la parole de Dieu nous parle de l'importance de ces réalités-là qui font partie de notre témoignage. C'est l'essence du discours de l'apôtre Pierre lui-même. Dans sa première lettre, chapitre 3, versets 15 à 16, il nous dit « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur ». Qu'est-ce que ça veut dire? Que le sanctifier veut dire « mettez à part ». qu'il ait vraiment une place à part dans vos cœurs, le Seigneur. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous et ayant une bonne conscience afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ, ça nous parle de conduite, soient couverts de confusion. Belle triade de mots, d'expressions ici. Sanctifier, se défendre avec douceur, on dit souvent en latin suaviter in modo forte in re, qui veut dire simplement doux dans la présentation, mais fort dans l'argumentation. Hein? Et alors donc, sanctifier, se défendre avec douceur et respect, et la bonne conduite. C'est ça un témoignage, c'est complet. Ça nous dit comment mener nos combats. Parce que nous en avons tous. Nous avons tous des idoles qui nous cajolent, hein, et dont on veut se débarrasser. Et la meilleure façon, ce n'est pas de nous concentrer sur nos idoles, sur nos péchés. On doit en prendre conscience, on doit lutter contre. Mais lorsqu'on a fait une obsession, ça nous empêche d'agir, ça nous coupe notre action. La meilleure façon, donc, de nous orienter, c'est différemment, c'est de nous orienter par le service, par les moyens de grâce, par la fidélité et la stabilité au travail. Écoutez bien le beau verset d'Hébreux, chapitre 12, verset 12-13. Toujours été impressionné par l'Épître aux Hébreux. Le gars, il écrit 13 chapitres, puis à la fin, il dit « Je vous ai écrit brièvement ». Imaginez-vous, s'il avait décidé de nous écrire longuement, mais c'est intéressant quand même, hein? Hébreux chapitre 12, verset 12-13. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse, voyez-vous? Il ne dit pas, mais là, redressez vos voies, puis après ça, marchez dedans. Pas du tout. Voici comment vous allez rectifier vos voies, c'est en marchant dans des voies droites. Et l'exemple que j'aime toujours donner, c'est quelqu'un chante faux, on l'installe près du piano, vous voyez? Il ne fera pas fausser le piano, hein? Mais le piano risque d'amener cette personne sur la bonne note. Une simple question d'obéissance à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Parfois, on se questionne sur nos efforts passés. Est-ce que je suis le seul ici? Non. Est-ce que ça a valu la peine? Et il en est aussi ainsi dans le témoignage. Est-ce que j'ai perdu mon temps? Est-ce que... Non, on n'a fini plus de finir. J'aimerais vous citer les paroles d'un mini-sermon que j'ai envoyé à Christian d'ailleurs. C'est un mini-sermon qui a été prêché par le pasteur Mario Veilleux, qui est le pasteur de l'Église réformée de Beauce. Il a prêché ce mini-message-là au synode réformé, samedi le 2 novembre dernier. Et le titre du message était « Grandeur et misère du ministère pastoral ». Je pense que ça vaut également par « Grandeur et misère de notre ministère de témoins » également. Je vous lis la conclusion parce que, comme je l'ai dit, ça vaut aussi pour notre témoignage. Un pasteur se demandait, « Quelle influence tous les sermons que j'ai prêchés l'année dernière ont-ils eu? » Puis la pensée suivante lui est venue à l'esprit. « Où sont les rayons de soleil de l'année dernière? » Ils ont servi à produire les fruits, les céréales et les légumes qui ont nourri l'humanité. Où sont les gouttes de pluie de l'année dernière? La plupart des gens les ont oubliées. mais elles sont cependant accomplies, leur travail rafraîchissant et leur influence persiste encore. De même, mes sermons ont servi à rendre les enfants de Dieu davantage semblables à Jésus-Christ et ainsi à les préparer pour le ciel, continuant avec persévérance à proclamer le message inestimable de l'Évangile. Hein? L'apôtre Paul de dire « Je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses, cela vous est salutaire. » Hein? Il racontait toujours la même histoire, quoi. Il répétait les mêmes choses. Est-ce qu'il s'est arrêté un jour pour dire « Ben, je suis toujours en train de répéter les mêmes choses. Je vais retourner chez les pharisiens, je ne sais trop quoi. » Vous voyez, non, il a persévéré. Parce qu'on sait que ce sont de minces couches qui s'étendent et qui font toujours leur œuvre année après année. Même chose pour notre lecture de la parole, d'ailleurs. Et ça m'amène à mon deuxième point, le message du deuxième ange. C'est original. Le premier ange a colporté un message de jugement, alors que le message du deuxième ange va comme suit au verset 8. Un second ange suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. » Ben, cette annonce angélique nous introduit à une nouvelle image de l'Apocalypse, une image familière, cependant, aux gens de l'Église primitive. À la fin de sa première épître, l'apôtre Pierre inclut une salutation particulière. 1 Pierre 5, chapitre 5, verset 13, nous dit « L'Église des élus qui est à Babylone vous salue. » On ne pense pas que Pierre est à Babylone, il est à Rome. Hein? Il s'agit bien sûr d'un code faisant référence à la ville de Rome. Et il n'y a personne qui en disconvient. L'Empire romain du temps de l'apôtre Jean reproduisait l'ancienne Babylone qui a détruit, Jérusalem et persécuté ceux qui voulaient vivre fidèlement et accomplir leur devoir envers Dieu. Autant l'une que l'autre, autant Babylone que Rome, se veulent des symboles du système du monde et de ses dirigeants qui, s'opposent à Dieu et qui s'opposent également au peuple de Dieu. Les Juifs du temps de Daniel et les premiers chrétiens de l'époque de Jean, tout autant que les croyants d'aujourd'hui, ont leur code postal à Babylone. Nous vivons dans un monde qui nous est hostile. Nous vivons dans un monde qui a son code postal chez l'ennemi. Nous vivons dans un monde qui a toujours été hostile à Dieu et à son peuple depuis la chute. Nous vivons dans un contexte antithétique à la piété. Rome et Babylone, vous savez, n'étaient pas connus uniquement pour leur oppression tyrannique, mais aussi pour leur séduction pécheresse des nations environnantes. La verset 8 nous parle de Babylone la Grande qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. Je crois que le mot fureur, c'est le mot thumos. Une chose est certaine, en tout cas, c'est que dans le grec, le mot veut dire littéralement fureur, qui veut dire vraiment passion, une passion de sa débauche. Babylone a aveuglé toutes les nations d'une passion furieuse pour la débauche et pour l'immoralité. On va en parler davantage au fil de notre étude, mais aujourd'hui nous nous contenterons de comprendre que le monde et son système ne fait pas qu'oppresser les gens, mais aussi les séduisent pour la destruction de leur âme, les enivre. Jérémie 51, verset 7, 8, « Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Soudain, Babylone tombe et les brisée. » Babylone était comme une coupe. Et elle a vraiment abreuvé à satiété toutes les nations de la terre de sa corruption. On pourrait parler aujourd'hui de San Francisco, de New York, de Montréal, de notre Amérique décadente, qui ne cesse d'exporter ses valeurs ou ses manques de valeurs de sexualité permissives, qui viennent alimenter toute une série de réseaux de prostitution et de pornographie. Hein? Il n'y a pas si longtemps, on a vu un homme de réputation à Hollywood, hein? Un bonhomme qui semblait invincible. Hein? La facture s'est présentée à lui. Il est en cours, il est en prison et les accusations continuent de s'empiler contre lui. On en a vu un autre qui avait sa propre île, vous savez de qui je parle, où l'immoralité avait longuement dépassé tout ce qui était imaginable et acceptable. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg, vous savez. On pense à ces choses-là, mais il faut penser aussi au campus universitaire, à ce qui se passe là-bas. Il faut penser à nos cégeps, il faut même penser aujourd'hui à nos écoles secondaires. La chute de Babylone, c'est un wake-up call, c'est une alarme pour l'Amérique de se repentir. Un autre, un second ange, qui a abreuvé toutes les suivi en disant « elle est tombée, Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. » Le vin de la fureur de sa débauche. C'est une expression immensément puissante et forte. L'expression décrit bien la corruption et le caractère destructeur qui a enivré toutes les nations. Il nous arrive parfois de se demander, mais à quoi est-ce que le monde pense? Puis là, on se remet un peu en question, c'est peut-être nous qui pensons croche, hein? Mais à quoi est-ce que le monde pense? Le monde est enivré des fureurs babyloniennes, des fureurs de la débauche babylonienne. Et c'est une ébriété qui enlève tout discernement, vous savez. C'est le premier principe de l'inébriété, hein? De l'ébriété. Ça enlève le discernement. On ne saurait trop parler du caractère toxique de la sexualité indulgente et sans bride qui vient briser, tristement, la capacité d'aimer. Proverbes chapitre 9, versets 13 à 18. La folie est une femme bruyante. La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assit à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hauteurs de la ville pour crier aux passants qui vont droit à leur chemin. « Que celui qui est stupide entre ici !» Elle dit à celui qui est dépourvu de sens, « Les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. » Et il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont dans les vallées du séjour des morts. Quelle belle réalité! D'ailleurs, si vous avez l'occasion de regarder ce psaume-là, il est magnifique. Vous avez le banquet d'âme folie, le banquet d'âme sagesse, vraiment en contradiction l'un avec l'autre. La bonne nouvelle, c'est que cette prostituée qui en a séduit un si grand nombre et dont les tentations viennent encore affliger le peuple de Dieu sera détruite au retour du Christ. Le verset 8 se réjouit de la chute de Babylone la Grande. Ces mots ne manquent pas de nous rappeler l'orgueil de Nebuchadnezzar. Après l'établissement de la puissante Babylone à l'époque, on l'a vu, pour ceux qui sont avec nous le mercredi dans notre étude de Daniel, chapitre 4, verset 30, le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici Babylone la Grande que j'ai bâtie comme une résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? » Est-ce que ça ne sonne pas un peu mondain? Quand on dit un peu, on est généreux. Hein? C'est la voie de la vanité. C'est la voie de l'orgueil du monde. C'est le cri de l'humanisme séculier. L'apôtre Paul nous ramène cependant à la réalité en Romains chapitre 11, verset 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui, à Dieu, soit la gloire dans tous les siècles et siècles. Amen. Il y a un troisième ange qui va entrer en scène maintenant. Et le premier ange, donc, met en garde contre la négligence spirituelle. Le deuxième ange menace ceux qui trouvent leur joie dans la corruption babylonienne. Le troisième ange, lui, confronte ceux qui ont accordé leur allégeance, leur loyauté au monde et ainsi adoré la bête, le pouvoir intimidant du monde. Spirituellement parlant, nous ne vivons pas dans un monde de peut-être. Notre marche, elle est oui ou elle est non pour le Christ. On n'est pas peut-être chrétien, hein, on l'est ou on ne l'est pas. La Bible ne nous fait aucun quartier sur cette réalité. Ceux qui ne glorifient pas, qui n'adorent pas Dieu, vont de facto adorer de faux dieux représentant le malin. Et ça, c'est tellement évident. C'est tellement évident pour les gens qui ne sont pas chrétiens, et j'ai presque envie de dire que c'est encore plus évident chez ceux qui, pendant un certain temps, ont prétendu être chrétiens, mais qui étaient de faux croyants, et qui retournent dans le monde, leur situation devient infiniment pire. Ils deviennent aigres, amers, dangereux, littéralement. Ces faux dieux, ces bêtes, pour reprendre l'image apocalyptique, sont multiformes. Dieu de la politique, Dieu du sport, Dieu du divertissement, Dieu de diverses passions, dépendance relationnelle, etc. Et l'ange d'affirmer que la colère de Dieu se veut la réponse à cette idolâtrie-là. Et nous avons ici la première description de l'enfer dans l'Apocalypse, mais ce ne sera pas la dernière. Mais on n'a pas manqué notre coup, hein? C'est toute une description que nous avons de l'enfer ici. Le verset 10 ne nous laisse pas dans le doute. « Les gens porteurs de la marque de la bête boiront la coupe de la colère de Dieu, l'implacable et incessante fureur de Dieu contre le péché qui brûlera férocement au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. » Et ça nous fait réaliser la profondeur et la laideur du péché en comparaison avec la sainteté et la pureté de Dieu. Là, il y a des commentateurs évangéliques qu'on aime bien lire et qui nous édifient à bien des égards, mais qui vont nier la réalité de cette horrible description, disant que l'enfer ne peut pas exister, c'est beaucoup trop cruel. Alors, ils préfèrent croire à l'annihilationnisme, qu'on va retourner au non-être, quelque chose dans le style. Une telle position ne saisit vraiment pas le caractère hideux, intolérable du péché, non plus qu'elle ne saisit la grandeur de la justice de Dieu. On passe notre vie, j'espère que c'est le cas, on passe notre vie à grandir dans la compréhension de la profondeur du péché. Comme j'ai dit, moi, Van Til m'a beaucoup aidé là-dessus. Il y a bien des choses que je ne comprends pas encore dans le péché. Mais la profondeur du péché, c'est telle qu'on n'a jamais une connaissance exhaustive de la connaissance du péché. C'est la raison pour laquelle on n'a pas une connaissance exhaustive de la profondeur de la grâce qui est venue triompher de ce péché-là. Hein? Quand on parle de péché originel, quand on parle de dépravation totale, on parle souvent de nos péchés, mais le problème, c'est le péché. Nos péchés ne peuvent venir que de la source de notre dépravation totale. C'est la raison pour laquelle tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons, même nos pseudo-bonnes œuvres, reste teinté de ce péché-là, parce que nous sommes encore atteints, nous sommes encore tachés par cette tache originelle que le Seigneur est venu pardonner, que le Seigneur est venu régler, mais il ne l'a pas annihilé. Hein? Il est encore là, ce péché-là. La terminologie des versets que nous avons ici, et c'est la parole de Dieu, ne nous autorise pas à croire que le jugement des perdus sera autre que conscient et éternel. Verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont point de repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Et vous savez quoi, cette colère-là contre le péché, elle est exprimée d'une manière très vive. J'ai presque envie de dire, elle était mise en vitrine, cette colère-là. Où est-ce qu'on peut voir la gravité du péché, sinon que dans la croix du Christ Jésus? Est-ce que le Seigneur avait une autre manière de faire? Est-ce qu'il a dit à Gabriel, « T'es un bon archange, veux-tu aller mourir pour les pécheurs? » Rien n'y aurait fait. Il fallait quelque chose, il fallait un être infiniment plus grand et plus saint. Parce que la sainteté et la perfection de Dieu exigent rien de moins que le mot « perfection ». Et même dans notre bouche, le mot « perfection » est imparfait. Le Dieu Tout-Puissant, infiniment saint, qui existe de toute éternité, qui se suffit de manière intra-trinitaire, a jugé bon de venir s'incarner. C'est un beau mot, s'incarner. Il est né d'une femme, hein? On en a déjà parlé, mais nos semaines croyaient que le Christ avait été fait au ciel et qu'on l'avait mis dans le sein de Marie, mais ce n'est pas le cas. Il a vraiment été formé dans le sein de Marie. C'est un véritable humain comme nous, le Christ. Dieu s'est véritablement fait un humain comme nous. Et il y a une différence énorme. Il n'était pas affecté, lui, par la chute originelle. Alors, sa tentation ne venait que de l'extérieur. Ça n'est pas le chercher dans son intériorité. Alors, il était tenté aussi, on le sait. Et quelle belle réponse. Il est écrit. Il est écrit. Dieu qui détourne son regard de son Fils bien-aimé, porteur de notre péché. C'est ça la croix. Ça veut dire quelque chose. Dieu qui détourne son regard du Fils, porteur de péché, incapable de supporter cela. C'est ça l'enfer. Une séparation d'avec Dieu. Le Dieu infini qui, selon Philippiens 2, versets 6 et 8, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. On lit ce texte-là, puis il ne nous reste qu'à tomber à genoux devant le Seigneur. On parle ici de méga jugement. Et pour les sauver, quelle dimension de grâce. Et le verset 10 ajoute que tous ces tourments-là vont avoir cours devant les saints anges et devant l'agneau. Hein, il y en a qui disent que Dieu ne sera pas en enfer. Bien sûr que Dieu va être en enfer. Il va être là dans son jugement. Hein? Dieu sera présent en enfer, mais dans son jugement, dans l'absence totale de faveur et de miséricorde. Ces souffrances-là auront lieu devant les saints anges et devant l'agneau. Le vin de la fureur de Dieu sera versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et ce sera le drink éternel de tous ceux et celles qui ont la marque de la bête, et non le sceau du salut. Une telle perspective, nous dit le verset 12, ne peut que nous motiver à la persévérance dans une foi active et dans un désir de proclamer cet évangile-là, cet évangile éternel. Au moment où Dieu versera le vin de son indicible colère dans la coupe des perdus, les sauvés, les fidèles, entendront la voix paternelle de Dieu leur dire, « Bien fait, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Et c'est cette voix-là que nous entendons au verset 13, qui vient clore la petite péricope d'aujourd'hui. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, « Makarioi, heureux, béni, béni dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, virgule, ah, car leurs œuvres les suivent. Ah bon? C'est intéressant, non? Car leurs œuvres les suivent. Donc les chrétiens, ce n'étaient pas des bibelots sur la tablette. C'est des gens qui œuvraient. C'est des gens actifs, voyez-vous. Quelle glorieuse façon déclare cette péricope. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Le mot makarios, littéralement, veut dire plus que béni. Il veut dire suprêmement béni. Tous ceux qui ont rejeté le Christ ne trouvent aucun repos. On revient au message du début. Où est-ce qu'on se repose? Il n'y a d'autre repos qu'en Christ Jésus. Mais pour le peuple du Seigneur Jésus, il y a un repos céleste. Le bien qu'ils ont fait sur la terre va les suivre au ciel. Beau verset qui nous dit, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux, à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, verset 13, afin qu'ils se reposent à leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ces œuvres que nous faisons sur cette terre vont nous suivre jusqu'au ciel. Ce ne sont pas des œuvres compliquées. On n'a pas besoin de les commander, on n'a pas besoin d'un catalogue. Elles ont été préparées d'avance pour que nous les pratiquions, nous dit Éphésiens 2. Ces œuvres vont nous suivre jusqu'au ciel. On ne parle pas ici de bonnes œuvres faites vainement dans un effort inutile de satisfaire Dieu, mais des bonnes œuvres d'un croyant faites dans un service de gratitude à notre Seigneur Jésus. Puisque nous sommes en pleine sécurité en Christ, la mort pour nous n'est pas une terreur, mais une bénédiction. Oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leurs œuvres, de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen.